des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Colère, dégoût, joie, peur, surprise, tristesse, les émotions déferlent sur nous comme un tsunami et ravagent tout sur leur passage. Tout, pas si évident tant les êtres humains sont inégaux face au phénomène des émotions. Alors, d'où viennent-elles? Comment les maîtriser? Nous tenterons, avec le docteur Dominique Demichel, de répondre à toutes ces questions et à bien d'autres dans cette nouvelle série des mots pour le dire.
Le César est attribué à Annie Girardot dans Les Misérables.
Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Et perdument. Douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
Ah, les émotions des remises des Césars ou bien des Oscars, difficile de choisir tant ces instants particuliers montrent toute la fragilité ou bien peut-être la maîtrise, hein, allez savoir, des vedettes du cinéma. Et si vous l'aurez compris, c'était Annie Girardot qui s'effondrait en larmes à la remise de son prix. Bonjour docteur Dominique Demichel.
Bonjour Simon.
Les acteurs, ce sont les maîtres des émotions, c'est ce qu'on leur demande. C'est tout un métier, hein, de... on les voit s'entraîner une glace, la colère.
Non,
vous n'êtes pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord que ce soit les maîtres des émotions. C'est les maîtres de la mise en scène de certaines émotions.
Bien sûr. Hein. Ouais.
Mais c'est pas. On voit bien Annie Girardot,
qui est
a priori une grande actrice quand même, reconnue en tout cas comme telle, je pense, dans le cinéma français. Voilà, là, elle ne maîtrise rien du tout.
Hein. Ouais.
Voilà, donc en effet, il faut maîtriser la mise en scène. Hein. Mais c'est très fort quand même ces mots, puisque d'abord elle commence à parler, puis juste après elle se tait.
Il y a ce silence
hein, qui est quand même précieux, comme si on était renvoyé d'emblée à l'intériorité. Moi c'est ça qui me frappe, hein, c'est-à-dire on ne peut pas être dans la parole, c'est d'abord il y a le silence.
Alors,
et puis ce qui suit après, c'est les larmes. C'est-à-dire les deux premières, entre guillemets, paroles qu'il y a autour de ces émotions, c'est le silence et des larmes, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec le langage.
Hein. Oui. Là, on est vraiment devant une vague d'émotions qui déferle sur cette actrice, où j'imagine tout ce mélange, sûrement, oui. Beaucoup de joie, beaucoup de choses qui lui sont personnelles et dont on ne sait rien. Alors, ces émotions, docteur Dominique Demichel, vous avez décidé d'en faire un long article. Quelle a été la motivation principale de cette réflexion autour des émotions?
Je vous rappelle d'abord que cet article est au moins initialement destiné à la revue Archipel.
À la revue Archipel, évidemment.
Voilà,
ouais.
Et la revue qui accompagne ou qui vient témoigner aussi du travail de l'association Jalmav, hein, jusqu'à la mort accompagne la vie, c'est-à-dire du travail de ces bénévoles qui accompagnent les personnes en fin de vie, qui accompagnent les familles, qui accompagnent les soignants et qui accompagnent aussi les gens endeuillés. Ou aussi, puisqu'il y a un tel groupe sur le département, qui accompagne les familles qui ont des patients atteints d'une démence ou d'une maladie d'Alzheimer. Et donc, dans ce travail-là d'accompagnement, évidemment, l'émotion est quand même au cœur du métier, si je puis dire. Donc, il nous a semblé, là, au sein de l'association, que c'était important d'essayer de réfléchir sur l'émotion. Et dans le dernier numéro, il y a plusieurs articles très différents sur cette émotion, sur ces émotions, et puis un petit mot aussi sur les sentiments. On aura l'occasion de différencier, je pense, probablement les deux.
Alors, dans votre introduction, vous parlez d'emblée d'un scientifique, Antonio Damasio. Pourquoi est-il aussi important ?
Vous connaissez hein, cette phrase célèbre, je pense donc je suis, hein, qui est l'approche de Descartes, c'est-à-dire l'approche cartésienne. Descartes, il a été un très grand penseur, mais il a été celui qui, reprenant au fond les grandes idées platoniciennes, ont séparé le corps et puis l'âme, hein, ou le somatique, et puis le psychique. Et donc pour lui, le corps était une machine absolument merveilleuse, mais qui était au fond assujettie, on pourrait dire, à cette pensée. Et donc lui, il a en quelque sorte, dans cette phrase qui est en même temps d'une très grande puissance, il a résumé quelque chose de l'identité, je suis, à ma fonction pensée, je pense. Et au fond, les travaux de Damasio, donc dans les années 90, ont consisté à essayer de repenser la place de l'émotion dans la vie courante. Et l'idée, en gros, c'était de dire j'ai des émotions, donc je suis. Voilà, c'était ça le point de départ.
Et des émotions qui sont fondamentales dans l'existence.
Voilà, je crois que une des caractéristiques de l'émotion, c'est l'idée que c'est un mouvement. C'est un mouvement et c'est une valeur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va donner du poids aux choses. C'est une valeur d'être qui, au fond, surgit à l'intérieur de nous-mêmes. On se rappelle ce qui s'est passé pour Annie Girardot, voilà, elle reçoit son prix et d'emblée, il y a quelque chose qui jaillit à l'intérieur d'elle-même et dont elle va témoigner avec d'abord son silence, ses larmes et puis ces mots que je reprends, manque, douleur, amour, incertitude, je ne suis pas encore morte, hein, donc on voit bien que c'est du côté de quelque chose d'extrêmement existentiel, quoi, tout à fait fondamental. Donc je crois que ces émotions, c'est important de se dire qu'elles nous mobilisent, elles nous bougent, elles nous remuent. C'est l'étymologie d'ailleurs de émotion et puis motion. Motion, ça veut dire le mouvement. Motion en anglais, c'est le mouvement. Et puis E, c'est ex. Donc l'émotion, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur de nous-mêmes et qui ressort. Voilà, c'est ça, qui ressort, qui est visible. Alors de temps en temps, c'est pas très visible. Quelqu'un peut dire à celui qu'il a en face de lui « je sens que tu es ému », c'est-à-dire « c'est pas très explicite », voilà. Ou à d'autres moments, on voit que c'est très explicite, comme dans l'extrait que vous avez donné.
Alors, émotion, à ne pas confondre avec sentiment, humeur, trait de caractère, en quelques mots.
Voilà, juste avant peut-être quand même qu'on reprenne ça, il y a le mouvement, mais il y a aussi quelque chose qui est du côté de « ça nous fonde ». Ça nous oriente, ça nous relie, ça nous ouvre et au fond, ça vient donner de la valeur aux choses. Voilà, je crois que c'est ça qui est pour moi l'idée importante, que c'est quelque chose qui est associé à la valeur. Parce que la sensation pure est quelque chose qui est au fond très objectif. Voilà, j'ai mal, j'ai chaud, j'ai froid, ça me pique, ça me pince, ça me brûle. La sensation est souvent associée à une valeur, agréable ou désagréable, ou très pénible, ou très agréable. Voilà, la pensée peut être de type thèse, antithèse, synthèse, foutaise, disent les mauvaises langues, c'est-à-dire quelque chose qui est construit, mais qui ne donne pas une valeur, tandis que les émotions et les sentiments donnent de la valeur.
Donc là, vous mariez sentiments et émotions.
Oui, mais pour reprendre ce que vous disiez, même si nous-mêmes nous expérimentons un large panel, au fond, d'émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le désir, la honte, plein de choses comme ça. Les sentiments, c'est autre chose. C'est quelque chose qui, au départ, repose sur une émotion, mais qui s'inscrit sur un temps en général plus long, parce que l'émotion, elle est plutôt sur l'instant.
Explosive, oui.
Voilà, tout à fait. En tout cas, à l'intérieur de nous-mêmes. Tandis que le sentiment, c'est quelque chose qui s'inscrit sur une plus longue durée et qui va être beaucoup plus déterminante sur nos actions. Voilà. Hein, on peut dire j'ai du sentiment pour toi, ou j'ai un mauvais sentiment, ou j'ai un mauvais pressentiment. Voilà. Ou j'ai des sentiments négatifs vis-à-vis de quelqu'un, ou des sentiments positifs, et c'est quelque chose qui va venir ensuite nourrir nos actions, alors que les émotions viennent l'éclairer, mais elles ne sont pas toujours suivies d'une action particulière.
Alors j'avais évoqué l'humeur tout à l'heure.
Oui, alors l'humeur, c'est un peu particulier, je crois qu'il faut vraiment le mettre à part. Alors l'humeur, c'est quoi? Ce matin, je suis de bonne humeur, et puis voilà, j'ai du soleil plein la tête, ou au contraire, ce matin, je suis de mauvaise humeur. On ne sait pas très très bien à quoi c'est dû directement. probablement à des facteurs qui tiennent à l'histoire récente, en sachant que cette humeur, parfois, elle est durable, hein, c'est-à-dire on est de mauvaise humeur pour toute la journée, et puis de temps en temps, il suffit que, je ne sais pas trop quoi, il y ait une remarque humoristique, et puis les nuages s'en vont. Hein. Donc l'humeur, c'est une sorte d'état intérieur, l'humeur, c'est quelque chose qui est une sorte d'état intérieur, qui n'a pas de causalité immédiate évidente, et puis qui peut être très volatile, c'est-à-dire ça peut disparaître, voilà. Et puis il y a des sensations, des sentiments et des humeurs qui vont s'inscrire dans un processus beaucoup plus complet, complexe et durable. Par exemple, un syndrome dépressif, une excitation, une espèce de débordement ou d'agitation, voilà. On voit ça aussi dans les obsessions, par exemple les manies. Donc ce type de sentiments sont des humeurs, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, voilà, qui nous possède un peu comme ça et on ne sait pas très très bien d'où ça vient.
À différencier également du trait de caractère.
Voilà, alors les traits de caractère... ont eux probablement une vraie causalité qui peut être expliquée. Hein. Ça dépend beaucoup de nos parents, de notre éducation, probablement d'une part génétique aussi. Et on sait bien qu'il y a des gens qui sont des optimistes et en gros, ils seront un peu optimistes toute leur vie. Il y a des gens qui sont pessimistes et que parfois sortir de ce pessimiste nécessite un long travail ou des vraies modifications à l'intérieur de leur existence, hein, parce que de temps en temps, le pessimisme est associé à un sentiment d'incomplétude, qu'on ne fait pas le métier qu'on veut, qu'on est à côté de la plaque, qu'on n'a pas fait des bons choix par rapport à son couple, par exemple. Et puis, de temps en temps, ben, y a quelque chose qui bouge, ça éclate, ça pète, et puis on repart dans autre chose. Et là, il y a quelque chose d'une vision plus ouverte de la vie, donc d'une forme d'optimisme qui réapparaît.
Ah, c'est mal, je vais y aller, c'est pas mal, quand t'as mis sur les touches, je vais bien y aller le premier, et ça va redémarrer, là. Et ça va redémarrer. Et on va les respecter, on va pas faire de faute. C'est clair, ça? Je sais même pas de quoi on peut parler. Je sais même pas de quoi on peut parler, mais je vais rien faire. Vous voulez qu'on parle de quoi? De moi, des touches, des mêlées, je sais pas, moi. On a rien fait. Dominguez, ton corps, il fait le passe. À 3 tonnes, Dominguez, je prends le ballon, je te retourne, pied gauche, je tape. On est capable de le presser, là. Merde! On se prend pour qui?
He'd lay us down to give and get beneath the white mosquito net. And since no counting had begun, we lived a thousand years in one. The candles burned, the
colère, il faut mieux savoir la manier. C'est ce que fait ici l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, Bernard Laporte. Rien de tel que le fameux coup de gueule à la mi-temps pour remotiver ses troupes. Alors Bernard Laporte, on le voit dans le vestiaire avec ses grands gaillards devant lui, tout penaud, la tête basse. Docteur Dominique Desmichel, et ben là, on a un exemple de quelqu'un qui sait maîtriser en tout cas ses émotions, qui les met presque en scène, ou Il est peut-être effectivement vraiment en colère, mais en tout cas, c'est une émotion, on sent l'utilité de cette émotion qu'il va déployer là. Hein. Et rien qu'à l'écouter, on se sent regardé.
Oui. Alors, quelle est la finalité de cette émotion ? Est-ce que c'est fait pour se soulager ? Est-ce que c'est fait dans une perspective pédagogique ? Ouais. Est-ce que c'est fait pour remobiliser les troupes, comme vous le disiez, Je crois que c'est important. Pour moi, la colère est pratiquement toujours une émotion qui est positive. Ce qui est problématique dans la colère, c'est ce qui se passe après.
Les
conséquences de la colère. Mais la colère à l'intérieur de soi-même, le plus souvent, naît d'un espace de nous-mêmes qu'on a très longtemps refoulé en tant que désir. Et puis, à force de le refouler, à un moment, comme un volcan sur lequel on aurait mis un bouchon extrêmement solide, à un certain moment, pof, ça pète. Donc voilà. Donc moi, je trouve que la colère, c'est toujours très, très intéressant à écouter. Ce qui est problématique, c'est qu'éventuellement, ça peut donner des dégâts ou chez l'autre, ou chez soi-même, voilà, avec un sentiment de culpabilité, par exemple. Voilà. L'autre chose qui est importante à retenir dans la colère, c'est que, vous savez que dans l'information que l'on donne, il y a toujours deux choses. C'est-à-dire, il y a un contenu et il y a une musique. Hein. C'est-à-dire, il y a les textes avec la parole, et puis il y a la musique. Et là, finalement, je trouve que c'était un très bon exemple, ce que vous disiez, parce que moi, j'avais un peu du mal à comprendre de quoi il parlait. Au bout d'un petit moment, j'ai compris que ça devait être quand même probablement l'effet du rugby, mais je n'étais pas très, très sûr. Par contre, on voit tout de suite que il est pas en train de que ça va pas, que c'est pas une recette de cuisine dans une en javanais par exemple ou autre chose, on sent qu'il est pas content. Et ça, cette expressivité des émotions, peut-être on en reparlera plus tard, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle est absolument universelle. Et d'ailleurs à ce propos-là, puisque vous en parlez, même si c'est pas tout à fait dans le plan qu'on a envisagé un peu, il y a pour ceux que ça intéresse au musée du Quai Branly sur les mezzanines en haut, il y a des petits exercices qu'on peut faire. Ça consiste à regarder, autant de fois qu'on veut, un dialogue entre deux personnes dans une langue qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, on ne va pas prendre une langue qu'on connaît, mais en finnois, en je ne sais pas trop quoi, en japonais, en esquimau, enfin je... voilà. Et ensuite, on vous propose la traduction de ces dialogues. Et à vous de choisir. Eh bien, moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience, parce que je trouve que c'est une bonne expérience, quand on prend le temps de réfléchir, le plus souvent, on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, alors évidemment, ce n'est pas des textes qui sont extrêmement proches. S'il y en a l'un qui veut vendre sa voiture, par exemple, un autre texte, c'est il donne des nouvelles de sa belle-mère qui est malade, et le troisième, il raconte, je ne sais pas trop quoi, ses dernières vacances. Mais quand on réécoute le dialogue, évidemment, on ne comprend rien du tout, mais on regarde les visages et surtout on écoute les voix, en général on comprend de quoi ça parle. Donc il y a cette universalité au fond de l'expression des émotions, ce qui est quand même intéressant. Et moi je trouve que quand on est dans n'importe quel pays du monde, eh bien quand on regarde les visages et ce qu'on a, on sait si la personne à qui on demande quelque chose est disponible pour nous répondre, si elle n'est pas contente, si il vaut mieux s'en aller très très vite, si on est en danger, etc. Vous voyez. Donc il y a ce côté universel.
Oui, puis la fameuse contagion, contagion des larmes, contagion du rire.
Exactement.
Je pense qu'on y reviendra bien sûr sur cette altérité entre les émotions. Docteur Dominique Desmichel, il est temps de rentrer dans le vif du débat avec, pour aborder ces émotions et la manière dont elles se déploient. Et que pouvons-nous dire sur les émotions ? On a commencé par dire que c'était quelque chose, évidemment, de ressenti.
Voilà. Et c'est un ressenti qui se situe, on pourrait dire, dans trois espaces de notre identité. Le premier, c'est le corps. Le deuxième, c'est notre mental, on pourrait dire, enfin nos sentiments, notre ressenti. Et puis le troisième, c'est notre comportement. Voilà, parce qu'il est rare qu'il y ait une émotion qui ne se traduise pas par quelque chose qui va être visible par l'entourage. Donc, on retrouve ça d'ailleurs dans ce qu'on appelle les grands champs cognitifs de l'émotion, c'est-à-dire, ou les champs d'expérience, c'est-à-dire le champ du savoir, le champ cognitif, le champ physiologique. Le physiologique, c'est en gros, quand on a très très peur, eh bien, on va avoir le cœur qui accélère. L'expressif, c'est-à-dire on va froncer les sourcils, on va rentrer les épaules. Le subjectif, c'est-à-dire on va avoir un ressenti particulier, voilà. Et puis le motivationnel, c'est-à-dire si le chien, on le sent comme dangereux, eh ben on va essayer de se reculer éventuellement lentement ou de trouver un arbre pour grimper dans l'arbre.
Et tout ça de manière évidemment inconsciente.
Et tout ça de manière, je dirais, pas obligatoirement inconsciente, mais en tout cas avec un programme automatique.
Avec un programme automatique.
Voilà, qui ça fonctionne.
Alors, prenons dans le détail ces différents espaces avec l'évaluation cognitive.
Voilà. Alors, cette évaluation cognitive, elle repose sur d'abord une expérience très concrète. Il y a un objet, il y a une personne, il y a une situation qui va induire cette émotion dont on parle aujourd'hui. Par exemple, je croise un chien inconnu, et puis il est en train d'aboyer, je vois que sa queue est basse, même si j'y connais pas grand-chose, en général, c'est que c'est pas il remue la queue dressée en l'air, il a envie qu'on le caresse ou qu'on lui fasse la causette. Et en général, quand on observe quelqu'un qui est devant ce chien, on voit sur son visage qu'il se passe quelque chose. Son visage se serre un tout petit peu, en général, on ramasse un petit peu son corps voilà, dans une attitude qui est... prête à se défendre ou prête à partir en courant. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se joue dans le corps, dans la voix en particulier, et dans la posture, comme je disais, par rapport à ses muscles. Le corps ensuite lui-même, il va porter cette émotion et de manière automatique, ça c'est le système nerveux qu'on appelle autonome. Autonome, ça veut dire avec notre conscience, on peut rien faire. Hein. Essayez donc d'accélérer votre cœur ou de ralentir votre cœur, vous n'y arriverez pas. Et là, par contre, au contraire, par la sécrétion de certaines hormones, par la stimulation du système nerveux autonome, il y a le cœur qui s'accélère, le ventre qui se serre, on peut avoir un petit nœud à l'estomac, et puis on va avoir une sécrétion en particulier d'adrénaline qui va nous rendre éventuellement plus performants et nous permettre parfois de dépasser notre record du 100 mètres quand il le faut. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le système nerveux autonome, c'est le système nerveux autonome sympathique, hein, voilà, qui est avec essentiellement deux hormones, l'adrénaline et la noradrénaline. Il y a aussi un petit peu le système nerveux parasympathique qui intervient, mais lui, il est plutôt un petit peu fait pour nous économiser.
Alors, l'expression...
Voilà, alors ensuite, l'expression, elle prend le relais avec une composante qui est d'abord corporelle, vraiment corporelle, c'est-à-dire je m'arrête, je me fige, je me mets en alerte, et puis, de temps en temps, verbal, c'est-à-dire... je sais pas, j'imagine devant le chien, on se met à lui parler, par exemple. Fais attention, recule-toi. Ou je suis pas méchant. Ou est-ce que t'es méchant? Ou est-ce que je te connais? Voilà. Chacun réagit d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis tout ça se conclut par un sentiment global qui est intégré, qui est un vécu subjectif. C'est-à-dire, je fais appel à ma mémoire. Est-ce que j'aime bien les chiens? Est-ce que j'aime pas les chiens? Est-ce que j'ai des mauvais souvenirs des chiens? Ou est-ce que j'ai bien l'habitude des chiens et je sais comment il faut les prendre? Voilà, avec donc un sentiment plutôt négatif, un sentiment plutôt positif. Tout ça à partir du ressenti. Les sensations en elles-mêmes, hein, en particulier le ventre qui se serre ou peut-être même un petit peu de transpiration sur le front, ces sensations, elles sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entièrement automatique, hein. C'est-à-dire ça vient de... Voilà, et c'est bien important de se rappeler que tout ça, c'est le fruit de 2, 3, 4 ou 5 millions d'années d'évolution, c'est-à-dire tous les systèmes assurant une sauvegarde pour que... Voilà, pour qu'on
pour la
assure
survie de l'espèce, hein,
voilà, survie de l'espèce humain, ouais. Ont fonctionné et sont engrammés, et ça, c'est livré avec tout le disque dur dès la naissance, et il n'y a pas de défaut là-dessus. Hein.
Voilà. Et ceci dit, c'est automatique, mais ça s'apprend aussi. Enfin, on peut plus ou moins évoluer là-dessus dans l'apprentissage. Je pense, je sais pas moi, n'importe quel dans l'armée, j'imagine qu'ils apprennent à gérer leur peur, par exemple.
Voilà.
Ou les pompiers, au fur et à mesure des années, apprennent à gérer leur peur, par exemple.
Voilà. Alors, je pense que, en particulier sur la physiologie, peut-être un tout petit peu plus tard, on reprendra ces notions-là. En gros, j'ai envie de donner déjà deux petits organes qui sont très importants. Un qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est pas l'amygdale qu'on a au fond de la gorge, c'est deux amygdales qu'on a dans le cerveau, un petit peu en plein milieu. Amygdale, ça veut dire petite amande, hein, voilà, donc ça a la forme de deux petites amandes comme ce qu'on a au fond de la gorge. Et puis le cortex préfrontal. Alors, pour les auditeurs, je vous invite à mettre ça dans un petit coin, l'amygdale, comme au fond de la gorge, mais c'est dans le cerveau. Et puis le cortex, ça veut dire c'est le cerveau, la partie active du cerveau, pas les connexions, mais la partie active du cerveau. Et qu'on dit préfrontal, c'est-à-dire, en fait, c'est juste à l'arrière de notre front, Voilà, hein, c'est derrière le front et c'est préfrontal parce que c'est à l'avant de la zone frontale. La zone frontale, c'est toute la zone qui est devant. Voilà.
Alors,
Et en effet, oui. Ces émotions, ça se régule. Et il y a l'articulation, justement, on le reprendra plus tard, l'articulation entre cette amygdale qui, en gros, nous dit « danger, danger », sous-entendu « grosse sirène » et puis les voyants rouges partout, et le cortex préfrontal qui va nous dire, en gros, du calme, avec les chiens, tu sais bien que il faut pas les agresser.
C'est au niveau donc du vécu subjectif que ça va se jouer. Et j'imagine peut-être aussi des...
Et de l'apprentissage.
Donc. De l'apprentissage, des réflexes qu'on a dit, des réflexes qu'on a appris, ta situation, c'est comme ça que je dois le faire. Et puis, d'accord.
Voilà, tout à fait. Donc quand vous évoquiez l'allée militaire, on peut bien penser que la situation par rapport à un danger entre vous et moi, c'est sûrement pas la même que celle d'un militaire entraîné et qui.
Alors, ce qu'il en ressort, c'est que l'émotion, c'est pas un état, mais c'est véritablement quelque chose d'explosif qui nous arrive.
Voilà, c'est un processus. C'est un processus vivant, c'est un processus dynamique qui, contrairement en tout cas à l'humeur, est toujours déclenché par un événement. Par un objet.
D'accord.
On a peur de quelque chose, on est en colère contre quelqu'un, on se réjouit d'une fête, on est heureux d'un coup de téléphone d'un ami qui nous dit qu'il va passer nous voir dans 10 minutes, ou qu'on croise dans la rue, vous voyez, c'est cette... voilà. Et cet objet-là, c'est un objet qui a aussi une charge de valeur. Hein. Quand je dis charge de valeur, ça veut dire ça compte. Hein.
Alors c'est automatique, comme nous l'avons vu, l'évaluation est automatique, mais ça dépend également de notre humeur qu'on peut avoir. Si on est déjà hyper stressé, j'imagine que la moindre émotion va prendre une valeur, comme vous dites, beaucoup plus grande, quoi.
Oui, bien évidemment que lorsque, je sais pas, moi je vois par exemple dans mon travail, hein, je sais que je n'aime pas trop être en retard, j'ai un peu du mal à gérer le fait d'être en retard, c'est comme ça, c'est tant mieux pour mes patients parce qu'ils n'attendent pas dans ma salle d'attente, mais c'est surtout que moi j'ai du mal, et je sais que quand je prends un petit peu de retard, et si en plus il y a 2-3 coups de téléphone qui arrivent, et qu'éventuellement il y a le facteur qui passe à ce moment-là parce qu'il a un paquet, il faut que je signe, voilà, j'ai bon. Et en gros, je vais être un petit peu plus tendu et là, probablement moins disponible que si je suis bien dans mon rythme, comme ça. Donc, en effet, l'état psychologique qui est le nôtre détermine, pour une part, nos émotions.
Je pense aussi au contexte social. On n'a pas les mêmes émotions devant son supérieur hiérarchique qu'avec son conjoint, par exemple.
Oui, alors je pense qu'on le reprendra, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans la régulation de nos émotions, cette composante sociale est très déterminante. Cette détermination est essentiellement liée à nos apprentissages. On sait que les enfants, par exemple, ils s'expriment de la même façon qu'ils soient, dans un magasin, par exemple, ou qu'ils soient chez eux. Et souvent d'ailleurs aux grandes dames des parents qui disent « Bon, écoute, ta colère à la maison, ça passe, mais ta colère en plein milieu du magasin ou dans la salle d'attente du docteur, non, ça va pas. » Et au fond, l'enfant va apprendre à gérer ça et à pouvoir canaliser ses émotions, les tenir ou les déplacer ou les décaler ou les adapter en fonction du contexte social.
Eh bien, il nous reste quelques minutes, une ou deux minutes pour terminer cette émission. Et c'est justement là-dessus que j'aimerais qu'on termine, docteur Dominique Desmichel. Les émotions, ça se canalise. Et ça se canalise grâce à quoi? Grâce à justement à cette espèce de retour sur soi par rapport à l'expérience vécue? Ou ça se fait de manière automatique?
Non, je pense pas que ça se fasse de manière automatique, parce que il y a des adultes qui sont encore des enfants sur le plan émotionnel. Je pense que ça leur joue souvent d'ailleurs des tours. Ça leur permet peut-être de garder une certaine fraîcheur émotionnelle, justement, hein, peut-être de temps en temps sentimentale. Mais en gros, dans la vie, quand même, il me semble, on a plus de liberté quand on a la capacité d'avoir un véritable accès profond vis-à-vis de ses émotions, mais où on en a aussi une certaine forme de maîtrise.
Ainsi s'achève notre émission des mots pour le dire. Nous nous retrouvons dans 15 jours afin de poursuivre cette série sur les émotions. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel et à la revue Archipel de l'association Jalmave, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui nous a permis de monter ce dossier. Put me on a plane tomorrow. I'll try to run from all